Vous écoutez
RMC.
Lundi 25 mai,
l'info sur RMC.
Il est 7h juste et Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Bonjour Céline.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Améliorer les conditions de travail des soignants et la prise en charge des patients. Lancement aujourd'hui d'une grande concertation sur la santé. Des mesures fortes devraient être annoncées mi-juillet. Accord en vue pour la réouverture des cafés et restaurants le 2 juin dans les zones vertes. Il faudra maintenir un espace d'un mètre entre chaque client. Et puis y aura-t-il une deuxième vague? On devrait être fixé dans les jours qui viennent, plus de 2 semaines après le début du déconfinement. Certains épidémiologistes sont optimistes. 1650 patients sont en réanimation. Bienvenue à tous sur RMC. C'est parti pour 7 semaines de négociations. À partir de 15h30, lancement du Ségur de la Santé, du nom de l'avenue où se situe le ministère à Paris. 300 participants représentent EHPAD, hôpitaux, vont être réunis pour par visioconférence, une grande concertation, donc pour remettre totalement à plat le système de santé. Paul Barcelone.
Hausse des salaires des soignants, fin des 35 heures à l'hôpital pour leur permettre de faire des heures supplémentaires. Le gouvernement veut aller vite, présentation de ces mesures au plus tard mi-juillet, puis vote avec le budget de la sécurité sociale au Parlement à l'automne. L'exécutif se sent attendu au tournant, il s'agit là du 3e plan hôpital depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Nous n'avons plus le droit à l'erreur, concède un député de la majorité qui garde à l'esprit que plusieurs syndicats et collectifs de soignants préparent d'ores et déjà une journée de mobilisation nationale le 16 juin. Pour le chef de l'État, ce Ségur de la santé est aussi l'occasion de faire remonter sa cote de popularité à un moment charnière du quinquennat. Quand vous retissez le lien avec les soignants, vous parlez au cœur des Français, conclut un proche.
Jean de Kervas-Doué est économiste de la santé. Il espère que la question de décentralisation des hôpitaux sera mise sur la table. Pour lui, c'est le seul moyen d'en finir avec un système défaillant.
Depuis très longtemps maintenant, je suis persuadé qu'il faut laisser les hôpitaux s'organiser. Il faudrait écrire une loi très simple. Chaque hôpital est maître de sa structure, point. Celle-ci est définie par son règlement intérieur, point. Un hôpital, c'est non seulement un hôtel qui marche 24 heures sur 24, l'alimentation, le linge, etc. Mais c'est en plus donc un endroit où on opère, donc il y a tous les processus liés au bloc opératoire. Donc c'est un endroit très compliqué. Les endroits très compliqués ne marchent bien que quand on décentralise.
Y aura-t-il une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 15 jours après le début du déconfinement? Les chiffres sont plutôt encourageants, rassurants. Le nombre de malades en France hospitalisés en réanimation ces dernières 24 heures est de 1655. C'est 10 de moins qu'il y a une journée. Laurent Toubiana est épidémiologiste, chercheur à l'INSERM. Le concept de deuxième vague ne s'applique peut-être pas au coronavirus.
Normalement, si ça avait été un virus normal, il aurait dû s'attaquer à toute la population. Or, on a bien vu qu'une partie de la population, et notamment la partie les plus jeunes, n'est pas arrivée. Donc, cette population-là est soit asymptomatique, soit simplement, elle s'est défendue toute seule contre le virus et donc n'est pas apparue. Il faudrait considérer une partie seulement de la population. Et ce que je considère pour ma part, c'est que cette partie de la population aurait été déjà touchée.
Alors, certaines personnes contractent encore le Covid-19. De nombreux foyers ont été détectés un peu partout en France. Pardon, excusez-moi.
C'est parce que je tousse.
Ben oui.
Non, voilà. Mais je fais attention, j'ai pas le Covid.
Ben je sais.
Ben je sais pas.
Enfin, j'espère pas.
Ben moi non plus.
Bon, je poursuis. De nombreux cas, donc un peu partout en France, de nombreux foyers. De nouveaux cas aussi dans des écoles, 2 établissements de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, ainsi qu'une maternelle et un collège de Toulouse ont dû refermer leurs portes, pardon, après la détection de cas. RMC 7h04, c'est une semaine cruciale qui s'annonce avec, on en parlait, le début de la concertation autour de la santé aujourd'hui. Demain, Emmanuel Macron fera des annonces concernant le secteur automobile et d'ici demain, eh bien, les restaurateurs aussi devraient être fixés. Pourront-ils rouvrir leur établissement à compter du 2 juin juste dans les départements classés verts? Eh bien, un accord est en passe d'être trouvé, Romain Cluzel.
Le point d'avancée majeur concerne la distance entre les clients. D'après un représentant de l'UMIH, l'un des syndicats des hôteliers-restaurateurs, il faudra maintenir un espace d'un mètre entre chaque personne. C'est une victoire dans les négociations avec le gouvernement qui prévoyait à l'origine un espace de 4 mètres carrés pour chaque client. Une telle mesure aurait largement limité les capacités d'accueil. En contrepartie, le gouvernement s'est montré ferme sur plusieurs points. En tant que client, il faudra que vous portiez un masque jusqu'à ce que vous soyez installé à votre table. Le serveur, lui, devra garder son masque dans la salle et ne pourra servir qu'une personne à la fois. Et si vous commandez au bar, l'employé derrière le comptoir devra obligatoirement porter une visière. En revanche, plusieurs aspects ont été mis de côté par le gouvernement. Pas de contrôle des températures à l'entrée des établissements et les salariés ne seront pas obligés de porter des gants.
Et notez que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 sur RMC et BFM TV. Une réouverture très partielle des mosquées pour l'Aïd, la fin du Ramadan. Un décret paru samedi a autorisé la reprise des offices religieux. Après un mois de Ramadan confiné, bien les fidèles ont pour certains pu retourner dans leur lieu de culte. Reportage dans la grande mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis, signé Nicolas Feldman et Aurélien Tiercin.
Pour ce prêche d'un nouveau genre, ils sont près d'une centaine de fidèles.
C'est la joie.
Sidi Bedemba, par exemple, masque sur la bouche, celui-ci est désormais obligatoire, a enfin pu revenir prier. Mais pas comme d'habitude, un mètre de libre à droite, un mètre à gauche, même chose devant et derrière.
Ça fait bizarre, parce que d'habitude, on se colle normalement, mais aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Ça, c'est nouveau pour nous. Voilà. Tout ça se passe bien, comme on dit, alhamdoulilah.
Une célébration de l'Aïd qui s'est bien passée, c'est aussi le sentiment de Mohamed Enich. Il est le secrétaire général de l'Union des associations musulmanes de la Seine-Saint-Denis. Le département héberge une centaine de mosquées.
Il y a une mosquée sur trois qui a ouvert pour l'Aïd et on était vraiment fiers des fidèles, parce que les fidèles nous ont donné une très bonne image, qu'ils sont à la hauteur. Mais on a une inquiétude que le vendredi prochain, il y aura un peu plus de monde.
Et pour la prière du vendredi, ce responsable préconise la tenue de deux offices au lieu d'un pour mieux répartir les fidèles.
40 000 morts en Amérique latine et aux Caraïbes depuis le début de l'épidémie. Au Brésil, le bilan s'approche des 23 000 décès du Covid-19. Et c'est dans ce contexte que le président Jair Bolsonaro est allé encourager des manifestants anti-confinement. Notez que depuis hier, il est interdit aux voyageurs en provenance du Brésil d'entrer sur le territoire américain. Quand pourra-t-on envisager de retourner dans un stade de football, un stade de rugby comme avant? La ministre des Sports n'envisage pas un retour à la normale sans vaccin. Elle s'est exprimée hier soir chez nos confrères de RTL, Gladys Lapitte.
Oui, on ne pourra pas refaire du sport comme avant, c'est ce que dit clairement Roxana Maraciné à nous, en tout cas pas sans vaccin, donc pas avant l'année prochaine, 2021 à minima. Côté ballon rond, l'arrêt de la Ligue 1 est source de tension, on le sait. L'Olympique Lyonnais et Amiens ont déposé des recours devant le Conseil d'État. La ministre des Sports indique que les finales de coupe en août, ça peut s'envisager à huis clos ou même avec du public de manière dégradée. Dans les stades, il faudra jouer avec les mètres carrés autorisés autour de chaque personne, dit la ministre, avec un parcours d'arrivée et de sortie pour aller à son siège. Elle évoque des scénarios à l'étude, notamment pour Roland-Garros ou le Tour de France. Enfin, la ministre des Sports espère que les compétitions pourront reprendre mi-juillet ou début août.
Merci Gladys. À Strasbourg, cette scène hallucinante, près de 400 personnes réunies hier après-midi dans un stade du quartier des Poteries pour assister justement à un match de football. Après un appel sur les réseaux sociaux, des investigations vont être menées pour identifier les organisateurs et les acteurs de ce match joué en toute illégalité. La police municipale est intervenue mais n'a pas pu empêcher de jouer cette rencontre. RMC 7h08, la chanteuse et actrice Camélia Jordana a réagi hier soir sur Twitter. Elle se dit prête à débattre avec le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Ce dernier a dénoncé, je le cite, les propos mensongers et honteux de l'artiste. Il a appelé à une condamnation sans réserve. Samedi soir sur France 2, Camélia Jordana a dénoncé les violences policières en banlieue et la stigmatisation des contrôles envers les personnes de couleur. Pierre-Yves Bonneau.
Des accusations qui mettent de l'huile sur le feu, selon les syndicats de policiers. Fabien Van Emmerich est secrétaire général d'Alliance Police Nationale.
C'est contre-productif, ça c'est sûr que ce qu'elle dit, ça ne va pas arranger les choses et ça ne va pas diminuer les tensions qu'il peut avoir dans ces quartiers. On appelle très clairement à des sanctions. Ces propos doivent être condamnés.
Camélia Jordana a reçu bon nombre de soutiens sur les réseaux sociaux, dont celui d'Aurélien Taché, ancien député de la majorité, parti chez le groupe Écologie, Démocratie et Solidarité.
Dire que des milliers de gens se font massacrer en banlieue, c'est un excès de langage. Mais en revanche, il y a aujourd'hui, on le sait, un réel problème, un certain nombre de violences policières dans les quartiers populaires.
Pour Dominique Sopo, président d'SOS Racisme, la chanteuse dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas.
Elle ne fait que dire ce que disent des milliers de personnes qui ont cette expérience de la police, parfois, parce qu'elles sont d'origine maghrébine ou subsaharienne.
Fin avril, l'association lançait une pétition pour réclamer au gouvernement l'ouverture d'un chantier pour lutter contre le racisme au sein de la police et la gendarmerie.
C'était un homme de lettres, un homme de parole, académicien. Jean-Loup Dabadier est décédé hier à l'âge de 81 ans. La France perd un auteur aux 1000 talents, a réagi le ministre de la Culture, Franck Riester. C'est un grand frère qui disparaît, a déclaré le chanteur Julien Clerc, pour qui Jean-Loup Dabadier avait notamment écrit « Ma préférence ».
Sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance.
Ça fait du bien un peu, hein, le matin, le un sais, peu de musique. Il est 7h11 minutes, merci, merci, à tout à l'heure. 7h11 minutes, tiens. Tiens, avant d'accueillir le professeur Jacques Rennes, qui est chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Montpellier, vous savez que le matin sur RMC, vous avez les acteurs de l'actualité, nous avons tout le monde en direct. C'est une des spécificités de cette matinale, tout le monde est en direct. Et dès 4h30, nous sommes en direct et nous sommes restés en direct tout au long du confinement et maintenant dans le déconfinement. Avant de recevoir le professeur Jacques Rennes, je voudrais, avec vous, Quentin Vinet, que nous parlions des vaccins. Et s'il y avait un vaccin contre le Covid-19, que feraient les Français ? Iriez-vous vous faire vacciner ? Eh bien, tous les Français n'iraient pas.
Exactement. Quentin. Alors que le monde entier est engagé dans une course au vaccin, qu'une centaine de projets sont en cours, 26% des Français disent qu'ils ne se feraient pas vacciner si un vaccin était disponible. Un quart donc des Français n'iraient pas, chiffre qui provient d'une étude publiée dans la revue britannique The Lancet, étude réalisée en plus au plus fort de la crise en mois de mars. Les plus réticents sont les personnes aux faibles revenus, les jeunes femmes et les plus de 75 ans. The Lancet invite d'ailleurs le gouvernement à communiquer en toute transparence sur le sujet, car les Français ont la réputation d'être les plus sceptiques au monde vis-à-vis des vaccins. Un Français sur trois pense que se faire vacciner est dangereux, selon une étude mondiale publiée l'an dernier. Un sur cinq estime qu'ils ne sont pas efficaces, y compris chez les médecins. Seulement un tiers des soignants et du personnel des EHPAD étaient vaccinés en 2018. Un chiffre qui, à l'époque, avait reposé la question de la vaccination obligatoire pour le personnel de santé.
Professeur Jacques Rennes, bonjour. Allô ? Professeur Rennes, vous êtes avec nous, chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Montpellier. Ça, ce sont les magies du direct, hein. Vous le savez. Professeur Rennes, oui, vous ne nous entendez pas. Bon, on va vous mettre au téléphone parce que Skype, bon, ça marche une fois, parfois pas. Enfin bon, allez, nous allons appeler le professeur Rennes en attendant. Laurent est avec nous. Laurent est dans les Yvelines. Bonjour, Laurent.
Oui, bonjour, Jean-Jacques.
Bon, peur de la police. Vous avez entendu la... La chanteuse, je ne la connaissais pas, moi, Camélia Jordana, mais bon, pourquoi pas, hein, qui dit, moi j'ai peur de la police. Oui, vous avez peur de la police, vous, Laurent ?
Alors, absolument pas. En plus, je voudrais revenir sur une chose très importante. En 2015, oui. Oui. Il faut savoir que c'est ces mêmes policiers qui étaient en première ligne au Bataclan.
Oui.
Salab d'Aslam, on va pas tous les citer.
Oui, oui.
Et ces gens-là, eh ben, oui. ils ont mis leur vie pour nous défendre.
Oui. Bah, ils mettent souvent leur vie pour nous défendre.
Ouais, mais là, c'était violent, vous voyez les images.
Bien sûr.
Je sais pas si vous vous rappelez.
Oui.
Donc, on les applaudit en 2015 et aujourd'hui, on dit presque que c'est la police Gestapo. Moi, je comprends pas.
Oui.
Ouais, alors, je vais vous donner une anecdote. Il y a à peu près 15 jours, ce que je disais à votre standardiste. J'étais un peu dans la lune, j'ai grillé un stop.
Oui.
Alors, clair, hein. Je cherchais une place. Et sur le côté gauche, il y avait deux gardes de la paix. Bah, il m'interpelle gentiment en me disant, monsieur, vous n'avez pas oublié quelque chose ? Évidemment, j'avais grillé le stop. Donc, je pense aussi que moi, j'ai reconnu ma faute. Je me suis excusé. Ils m'ont contrôlé les papiers. Après, si vous avez un comportement normal et puis vous êtes respectueux, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Moi, je ne comprends pas, quoi. Et ils m'ont laissé partir. Hein. Et merci à ces deux agents de police. 4 points et 90 euros, ils m'ont fait économiser.
Bien, ben merci beaucoup. Merci à vous, hein, Laurent. Merci, nous continuerons ce débat. D'ailleurs, est-ce que parfois vous avez peur de la police? Vous me dites, 3216@rmc.fr, il y a beaucoup de réactions.
Je suis justement en train de les lire. Mathieu. Tiens, celle de Michael qui lui est complètement d'accord avec Camélia Jordana. Il dit, il n'y a pas que dans les quartiers, dans d'autres régions de France, le sentiment est là, le même. Les violences policières sont de plus en plus fréquentes et non punies, selon Michael.
Bien, il est 7h15. Donc, le professeur Jacques Rennes est avec nous. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Ah, bah vous voilà au téléphone, ça marche souvent beaucoup mieux. Hein. Vous avez vu cette étude sur les Français, 26% des Français, qui disent qu'ils ne se feraient pas vacciner contre le coronavirus, même si un vaccin était disponible. Qu'en pensez-vous?
Oui, ça m'étonne pas trop. Hein. Donc, compte tenu de la position en général des Français vis-à-vis de la vaccination, après, on n'est pas du tout arrivé encore à la mise au point de... complète d'un vaccin à efficacité démontrée, donc on est loin encore. Hein.
Oui, d'accord, mais enfin, ça prouve qu'il y a toujours en France cette crainte devant les vaccins, devant la vaccination. Est-ce que par exemple, s'il y avait un vaccin contre le coronavirus, il faudrait que tout le personnel de santé soit vacciné?
Il faudrait le lui proposer. Maintenant, c'est des mesures individuelles. Il faut savoir que le personnel, effectivement, de santé met potentiellement en risque donc les soignés. Maintenant, il y a des mesures de précaution qui limitent très fortement le risque de transmission. Et puis après, la population en général soignante est moins exposée à des formes graves.
Bien, professeur Rennes, vous avez lancé, vous expérimentez. Je rappelle que vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Montpellier. Le CHU de Montpellier expérimente l'association, la fameuse association hydroxychloroquine et azithromycine. Et c'est Covidoc, lancé mi-avril, qui implique plusieurs hôpitaux de la région, hein, jusqu'à hier même, jusqu'à Cannes. Cette étude vise à étudier l'efficacité de cette bithérapie. Où est-ce qu'on en est?
Ben, nous en sommes à l'influence majeure de la décrue et donc pratiquement à l'arrêt des inclusions de fait de l'absence de nouveaux patients. Donc, ce qui pose
c'est-à-dire que vous êtes obligé d'arrêter votre étude, professeur Rennes, parce que vous manquez de nouveaux patients, c'est cela
oui,
ou pas?
Oui, en partie. C'est une des éléments de discussion. Après, je pense qu'il va y avoir d'autres éléments qui amèneront la discussion. Et donc, la question, c'est de savoir effectivement s'il va y avoir pas tellement un rebond dans les semaines qui viennent, mais surtout éventuellement une deuxième vague à l'automne ou à l'hiver. Et donc, qui reposerait la question de l'adaptation ou pas de cette bithérapie. Donc il y a toute une question actuellement qui est envisagée au niveau du comité de surveillance indépendant, au niveau évidemment des investigateurs pour savoir la conduite à tenir.
Vous voulez dire par là que toutes les expérimentations sur les traitements possibles, potentiels, prennent du retard?
Sont en grande difficulté. Hein. C'est tous les essais en pratique. C'est-à-dire que les essais qui ont pu terminer les inclusions, effectivement, auront des conclusions, mais un grand nombre d'essais vont être en difficulté dans beaucoup de pays.
Dans beaucoup de pays. Professeur Jacques Rennes, quelques mots sur l'étude concernant l'hydroxychloroquine, étude publiée par The Lancet, qui dit que l'hydroxychloroquine n'est pas efficace et même parfois, je dis bien parfois, néfaste. Qu'en pensez-vous?
Alors, il y a plusieurs choses à dire. Hein. Premièrement, c'est un registre informatique sur un grand nombre d'hôpitaux, essentiellement nord-américains, qui a apporté des informations effectivement non négligeables, mais avec, d'une part, beaucoup d'imprécisions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas indiquées. Un autre élément important, c'est qu'il y a un tiers des personnes décédées qui avaient des antécédents de cardiopathie qui, a priori, contre-indiquait ce type de traitement. Et enfin, un autre élément très important, c'est qu'il y a beaucoup d'autres traitements qui étaient administrés simultanément. Et en particulier, il y avait d'autres antiviraux dont on sait qu'il y a des interactions néfastes avec la chloroquine et avec l'hydroxychloroquine, majorant leur toxicité. Donc, c'est pas très étonnant, en définitive, qu'on ait ce sur-risque liée à ce type de situation, tant des patients que des produits co-administrés.
Bien, à force de dire je suis pour, je suis contre, moi, j'attends toujours le véritable traitement. Vous aussi, Jacques Rennes ?
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir qu'il y a quand même des données positives sur d'autres essais, et c'est intéressant que de voir le même jour, le 22 mai, été publié dans le New England Journal of Medicine, qui est aussi une très grande revue.
Oui,
les
bien
résultats,
sûr.
Les résultats du Remdesivir, qui est le produit, vous savez, qui est produit par une entreprise américaine, Gilead, et qui montre quand même, alors c'est pas un produit miracle, mais qui montre quand même une réduction du temps de récupération, hein, de guérison,
oui,
et d'autre part, qui réduit aussi la mortalité dans un certain type de patients hospitalisés et qui nécessitait une oxygénothérapie. Donc c'est quand même un résultat important qui va, à mon avis, peser sur les choix futurs.
Remdesivir, hein. Professeur Jacques Rennes, un test salivaire français, simple d'utilisation et réalisable sans laboratoire, donne de premiers résultats encourageants.
Oui,
c'est votre test sur 180 personnes.
Voilà. Oui. Il a été mis au point effectivement à Montpellier et donc là on a réalisé une étude clinique dont les résultats vont bientôt être publiés et effectivement c'est un élément intéressant parce que ça permet de faire une détection du virus par une technique de PCR nouvelle, pas la PCR classique, qui permet de réduire les modalités de réalisation, ce qui permet en particulier de réduire le délai de réponse. Et on peut réaliser dans des conditions assez faciles ce test avec un résultat en 30 minutes, et puis la facilité évidemment du prélèvement, qui est un prélèvement de salive et non un prélèvement au niveau nasal.
Bien, eh ben on en saura plus vendredi et ne vous inquiétez pas, nous allons suivre cela. Merci professeur Jacques Rennes.
Merci
d'avoir été avec nous en direct ce matin. Il est 7h21 pour savoir et comprendre, disons clairement les choses. Le matin sur RMC, 7h21, Mathieu.
À suivre, une info que j'apprends avec Marie Dupin ce matin.
Oui.
Depuis vendredi, il n'est plus obligatoire d'avoir, vous savez, un éthylotest dans sa boîte à gants.
Ah bon ?
Oui, mais pourquoi ? Eh bien Marie va tout nous dire, Dupin quotidien dans un instant sur RMC.
RMC.
Dupin quotidien.
Bien, Marie Dupin. Bonjour Marie.
Non.
Oui, bonjour Marie, non ?
Non.
Si. Marie ne m'entend pas.
Si,
qu'est-ce qu'il y a ce matin ? Mais que se passe-t-il ? Pourtant, Marie, regardez ce beau ciel bleu. Regardez un peu, c'est magnifique chez Marie. C'est absolument magnifique, mais elle ne nous entend pas. Bon, je ne sais pas ce qu'on a. Ce matin, alors on va passer à Nicolas Poincaré, non ? Ou à Charles Magnien, comme vous voulez.
Charles Magnien.
L'actu des réseaux sociaux, un coup de téléphone qui fait beaucoup réagir.
Oui.
Emmanuel Macron qui téléphone de tous les côtés, hein, qui a même téléphoné à Jean-Marie Bigard, qui avait poussé un coup de gueule au sujet de la réouverture des bars et des restaurants.
Coup de gueule publié sur Instagram, dans lequel Jean-Marie Bigard interpellait directement le chef de l'État et, je cite, les guignols qui nous dirigent, afin d'obtenir, je cite encore, la réouverture de nos bistrots et le droit de boire un canon en terrasse. La vidéo a donc été vue par Emmanuel Macron, qui, selon Le Monde, a appelé directement l'autoproclamé humoriste le plus vulgaire de France et lui a promis un échéancier, un coup de téléphone qui a fait grincer des dents sur Twitter. J'imagine la tête du conseiller quand Macron lui a dit « Passez-moi tout de suite Jean-Marie Bigard », dit un internaute. Un autre se demande si Macron va annoncer un lâcher de salope pour fêter la fin du Covid, en référence au célèbre sketch de Bigard. En même temps, dit un internaute, ça ne doit pas beaucoup changer de ses coups de fil avec Trump. Et beaucoup se demandent si, je cite, après Bigard pour les restaurants, Emmanuel Macron va consulter Cyril Hanouna pour rouvrir les musées ou bien Booba pour rouvrir les octogones. Le président a-t-il aussi appelé Serge Lama pour l'ouverture des eaux, s'interroge un internaute. Pas mal de moqueries, y compris de la part de journalistes auxquels Jean-Marie Bigard a répondu à sa façon hier sur Facebook. Je cite, certains journalistes me tournent en ridicule puisque j'ai réussi à parler à Macron au téléphone. J'aimerais dire à ces journalistes que je suis désolé si eux n'arrivent pas à parler au président. Peut-être aussi qu'ils n'ont pas grand-chose d'intéressant à lui dire. J'ai peut-être pas la carte de presse, mais moi, j'ai encore une paire de couilles. Fin de citation.
Aux Pays-Bas, la justice contraint une grand-mère à retirer de Facebook les photos de ses petits-enfants.
C'est sa propre fille, la mère des enfants, donc, qui a porté l'affaire devant la justice, car sa mère, la grand-mère, refusait de retirer les clichés. Décision logique, hein, au regard du fameux RGPD, le règlement européen sur la protection des données, qui pose deux principes essentiels. D'abord, si quelqu'un apparaît sur une photo mais qu'il demande son retrait des réseaux sociaux, le retrait doit être immédiat. Et concernant les moins de 16 ans, il faut l'accord des deux parents pour mettre en ligne des photos. Cette grand-mère hollandaise a donc logiquement été condamnée à retirer immédiatement les clichés sous peine d'une pénalité de 50 euros par jour de retard. Et ce type de jugement n'est pas une première en Europe. En Italie, un ado de 16 ans avait poursuivi sa propre mère en justice et obtenu le retrait de toutes ses photos d'enfance publiées sur Facebook par sa maman.
Bien, merci Charles. On peut reprendre Marie Dupin par téléphone rapidement, Marie. Vous êtes
oui,
là.
Oui, Jean-Jacques.
Ah ben voilà, le téléphone, ça marche. Hein. Oui. Il n'est plus obligatoire d'avoir un éthylotest dans sa voiture, Marie.
Bah oui, vous avez vu, Jean-Jacques, avec le déconfinement progressif, les ventes de champagne et de vin pétillant sont en très forte hausse. Et évidemment, faut pas prendre la voiture si on a bu. Sauf que, effectivement, depuis quelques jours, il n'est plus obligatoire d'avoir dans sa boîte à gants le fameux petit tube avec les cristaux blancs et le ballon blanc, des éthylotests jetables et périssables et surtout inutiles quand on ne boit pas. La sécurité routière a estimé que ce n'était pas une mesure efficace, notamment parce que les éthylotests n'étaient pas valides assez longtemps. Donc, on avait des éthylotests périmés qui dormaient dans nos boîtes à gants.
Alors, les commerçants qui vendent de l'alcool vont devoir être obligés de proposer à la vente aussi des éthylotests à partir du mois de juin.
Ouais, qu'il s'agisse d'une grande surface ou d'une épicerie, à partir du moment où un commerce va vendre de l'alcool emporté, il devra aussi vendre obligatoirement des éthylotests, et si possible près du rayon alcool ou dans le rayon alcool. Obligation renforcée aussi pour les boîtes de nuit et les bars, puisqu'ils écoperont d'une amende s'ils n'en proposent pas.
Merci Marie, j'espère que ça marchera bien demain, qu'on va vous retrouver dans votre jardin, Marie. Mais oui, ça nous manque, Marie, à demain.
Allez, je suis bientôt de retour.
Allez, Nicolas Poincaré est avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jean-Jacques.
Qu'allez-vous nous expliquer? Vous allez nous expliquer que pendant le confinement, malgré le confinement, certains se sont enrichis.
Et oui, parce que les bourses montent depuis deux mois. Donc par exemple, depuis deux mois, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, a gagné 34 milliards d'euros.
Combien ?
34 milliards, ça fait, j'ai fait le calcul, ça fait 300 000 euros par minute. Voilà ce qu'il a gagné, l'homme le plus riche du monde, depuis le début de la crise. Et d'autres fortunes sont en train de se construire. Je vous parlerai notamment d'un Chinois qui a créé Zoom, ou bien d'un trader français qui a fait un énorme pari sur le pétrole, pari gagnant.
Il est 7h30.
À suivre dans Bourdin Direct. Pas en sécurité face à un flic, dit Camélia Jordana, colère des forces de l'ordre. Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, avec nous, juste après le journal de 7h30 sur RMC.
Il est 7h31. Anne-Sophie Balbir est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques. Bonjour à tous. L'espoir du 2 juin, les restaurateurs et cafetiers sauront cette semaine s'ils peuvent rouvrir à cette date dans les départements verts. Il faudra respecter une distance d'un mètre entre chaque client. Le coup d'envoi du Ségur de la Santé cet après-midi. Objectif, refonder le système. Sur la table, hausse des salaires, organisation du temps de travail. Et puis, nous irons en Corrèze où des soignants shootés par leurs commerçants au plus fort de la crise, ont décidé de leur rendre l'appareil. RMC 7h32. Quelles seront les prochaines étapes du déconfinement ? Agenda chargé cette semaine. Restaurateurs et cafetiers sauront s'ils peuvent rouvrir à compter du 2 juin dans les départements classés verts. Si c'est oui, dans quelles conditions ? Romain Cluzel.
Les négociations ont beaucoup avancé ces derniers jours, avec une date de réouverture actée dans les zones vertes, le 2 juin, un soulagement pour Thierry Grégoire de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.
On sait très bien qu'on ne réouvrira pas à 100% d'activité. La date du 2 juin, ça sera une date symbolique pour notre secteur d'activité, ce sera le retour à la vie.
Une reprise sous condition, les clients devront porter un masque jusqu'à leur installation à table et les serveurs derrière le comptoir porteront une visière. En contrepartie, le gouvernement a finalement accepté d'instaurer une distance d'un mètre entre les clients, une avancée majeure dans les négociations pour Thierry Grégoire.
La distanciation sociale de 1 mètre, bien évidemment, celle-ci restera, mais c'est très important parce qu'il faut absolument qu'on renvoie des choses un peu positives à nos collègues.
Des professionnels qui pourront se baser sur l'exemple de l'Italie où le secteur a repris dans des conditions similaires la semaine dernière. Mais le chef étoilé Thierry Marx attend surtout du gouvernement des décisions claires.
Qu'on nous donne un cahier des charges précis
et puis on s'adaptera. On peut effectivement dire qu'il y aura moins de clients dans le restaurant, mais on aura une plage d'ouverture beaucoup plus large.
Thierry Marx veut se baser sur son expérience lors de l'épidémie de SRAS en 2002, où il a dû là aussi appliquer des conditions sanitaires strictes dans ses établissements en Asie.
Alors aujourd'hui, ce qui va mobiliser le gouvernement, c'est le coup d'envoi du Ségur de la Santé. 7 semaines de concertation pour refonder le système. Autour de la table, 300 responsables syndicaux et représentants des collectifs de soignants. Gladys Lafitte, bonjour.
Bonjour.
Gladys, sur quoi vont porter les discussions?
Eh bien, les sujets sont vastes et importants, avec en tête une demande forte de tous les soignants, une hausse significative des salaires, 300 euros minimum, dit le collectif Interhôpitaux par exemple. En clair, du fric pour l'hôpital public, comme le dit l'un des slogans du collectif. Sur la table également, l'organisation du temps de travail et la question de la fin des 35 heures pour permettre au personnel de faire des heures supplémentaires. La gouvernance des hôpitaux sera aussi un sujet majeur. Vous l'avez dit, 300 personnes participent à ce Ségur de la Santé, des responsables syndicaux, collectifs de soignants, représentants des EHPAD aussi, des établissements médico-sociaux et de la médecine de ville, tous en visioconférence. L'attente est forte, ont déjà prévenu les soignants. Le collectif Interhôpitaux et le collectif Interurgence appellent déjà à une manifestation le 16 juin prochain.
Gladys Lafitte en direct, merci. Dans le secteur automobile, des annonces sont aussi prévues. Augmentation de l'aide liée à l'achat d'une voiture électrique. Création d'un bonus pour les véhicules hybrides rechargeables. Emmanuel Macron présentera un plan de soutien de la filière demain. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 sur RMC et BFM TV. Le gouvernement devrait décider aussi la semaine prochaine de rouvrir ou non les lycées, trancher sur le maintien ou pas de l'oral de français pour le bac. Dans les zones les plus touchées par le virus, les collèges n'ont pas encore rouvert et une partie des élèves ne se voit plus y retourner. Illustration à côté de Troyes dans l'Aube, Florian Chevalet, Romain Poiseau.
En pleine partie de football, Marwan, 15 ans, n'envisage pas une seule seconde de reprendre l'école.
Non, je serais pas prêt, hein. Je vous dis la vérité. Je m'y attends pas, là. Je suis... Ça fait longtemps, c'est loin à l'école, là, quand même. On est déjà en vacances, dans notre tête.
Pourtant, lui et Caïs, son petit frère de 12 ans, ont des devoirs à faire tous les jours et des cours sur Internet.
Moi, je décrochais un peu, des fois. J'ai pas concentré. En plus, la prof, elle peut pas te voir. Mon téléphone, il sonnait toutes les deux secondes. Je pouvais pas m'empêcher de regarder les messages.
Mais une fois arrivé à la maison, la console branchée dans le salon, il est difficile de se concentrer.
Là, maintenant, je joue tout le temps comme le lendemain, il n'y a jamais école. Et je suis trop fort.
Les parties s'enchaînent sous le regard inquiet d'Isman, leur maman.
Je pense que les lacunes se sont creusées. Ils comprenaient pas tout le temps le travail à faire, les consignes. C'était déjà un peu fragile, mais là, avec le confinement, ça s'est un petit peu plus creusé. Là, je suis quand même inquiète pour la rentrée.
Une inquiétude partagée par Dorothée Pelé, cette éducatrice spécialisée, craint que certains élèves n'aient plus aucun contact avec l'école d'ici septembre.
Il va y avoir peut-être des redoublements, ça va être un niveau scolaire très faible.
Aujourd'hui, elle espère la mise en place par l'Éducation nationale de dispositifs pour limiter le décrochage scolaire.
On vous emmène en Corrèze aussi ce matin. Initiative solidaire, des soignants de l'hôpital de Brive-la-Gaillarde ont décidé de lancer une cagnotte pour les restaurateurs et les hôteliers qui leur ont apporté du soutien pendant la crise. Capucine Bouillot.
Midi et soir, le docteur Nicolas Pichon et les soignants de l'hôpital de Brive-la-Gaillarde recevaient des repas de la part des restaurateurs des environs.
Toutes sortes de petites attentions très réconfortantes pour le personnel qui vivait des moments émotionnels assez difficiles.
Une solidarité qu'il veut rendre aujourd'hui pour aider les restaurants, mais aussi les hôtels qui ont accueilli des soignants partout en France.
Quelques euros de chaque soignant en France permettraient de venir en aide à pas mal de restaurateurs et d'hôteliers qui vont se retrouver en difficulté. Voilà, ça serait un juste retour des choses que, à notre tour, nous les soignants, de leur venir en aide.
Une initiative bienvenue pour Clément Bergot qui a ravitaillé en burger les équipes de l'hôpital de Brive.
Je ne m'y attendais pas du tout. C'est fou, quoi. Je veux dire, c'est super, super sympa de leur part. Moi, personnellement, je suis une petite structure. Ça fait du bien d'avoir du soutien, quoi. Du soutien qui est rendu.
Chaque euro sera reversé à l'Union des métiers de l'industrie hôtelière qui distribuera l'argent aux commerces indépendants en difficulté.
RMC 7h37, Camélia Jordana propose de débattre en direct avec Christophe Castaner. Message lancé sur Twitter. Samedi, la chanteuse et actrice a accusé les policiers de massacrer des hommes et des femmes pour leur couleur de peau. Propos mensongers, honteux, lui a répondu le ministre de l'Intérieur. Réaction aussi du rappeur et écrivain Abdelmalik hier soir sur BFM TV.
On peut dire des choses par l'émotion, mais ça n'empêche que ça puisse refléter une réalité concrète qui existe aujourd'hui, ou qu'une certaine partie de la communauté nationale est à la fois stigmatisée, et en termes de justice, il y a deux poids, deux mesures, on peut avoir ce sentiment-là. Mais je pense que par rapport aux politiques, par rapport aux ministres, c'est des gens qui doivent faire preuve d'une certaine sagesse et essayer d'apaiser les choses. C'est important d'apaiser la justice. Évidemment, c'est le glaive, mais c'est aussi la balance. C'est-à-dire rechercher l'équilibre et essayer de comprendre les gens.
Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police et Faux, sera votre invité ce matin sur RMC, Jean-Jacques.
Oui, dans quelques instants.
Les courses à Lyon-Paris, Mathieu.
Le pronostic de la Dream Team des courses RMC, favori numéro 5, Bella Riva, outsider numéro 12, Glissandrine, le 5 et le 12.
Bien, il est 7h38, savoir et comprendre le matin sur RMC avec les réactions, les témoignages, tout en direct. Le matin, ce qui explique parfois des petits problèmes de Skype. Mais bon, c'est comme ça, c'est le déconfinement. Les policiers sont censés nous protéger, mais il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie. Qui dit cela ? Eh bien, la chanteuse Camélia Jordana. Yves Lefebvre, bonjour.
Bonjour, Jean-Jacques Bourdin.
Yves Lefebvre, vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Vous vous sentez... insulté, accusé, incitation à la haine ou pas ?
Accusé, insulté, je dirais menacé pour mes collègues, encore plus ceux qui ne sont dans certains quartiers. Et bien évidemment, aujourd'hui, moi j'attends, je dépose plainte. Je dépose plainte au titre d'unité SGP Police. Et j'attends une réaction massive, je dirais, de l'opinion politique par rapport à ça. À contrario de ce que je viens de lire il y a quelques instants, de la position d'un ex-marcheur du Val d'Oise qui vient soutenir cette personne. C'est honteux.
Aurélien Taché, hein, je crois.
Oui, c'est ça. Oui.
L'ancien député La République En Marche qui est maintenant dans le nouveau groupe.
Voilà, on est dans cette vague qui malheureusement grossit de pseudo-politiques, de pseudo-artistes, de pseudo-journalistes pour certains qui aujourd'hui viennent stigmatiser les forces de l'ordre. Comment peut-on dire et comment peut-on laisser dire sur une chaîne quand même du service public de tels propos? Les policiers massacrent. Mais Jean-Jacques Bourdin, c'est profondément scandaleux. Non, les policiers massacrent pas. Oui, les policiers sont républicains. Non, les policiers ne sont pas fascistes. Et ça, moi, j'attends de Camélia Jordana, parce qu'elle prétend vouloir faire un débat avec Christophe Castaner. Ah, c'est facile de faire un débat avec un homme politique, ou de prétendre à vouloir le faire, qui ne lui répondra jamais. Alors moi, si elle veut Camélia Jordana, je débat avec elle quand elle veut, où elle veut. Et je lui laisse le choix de la scène.
Ici.
Ah ben avec grand plaisir.
Yves Lefebvre, ici, j'organise le débat sans aucun problème entre vous deux. Hein. Vous, voilà ce qu'elle dit. Je ne parle pas des manifestants, je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait, dit-elle. Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France.
Mais vous imaginez, ça fait référence aux pires états fascistes qu'on ait pu connaître dans notre histoire, ou qu'on connaît dans certains autres pays que le nôtre. Alors, quand il y a des erreurs, et d'ailleurs, l'écrivain Philippe Besson le dit, justement, durant cette émission, quand il y a des erreurs, je suis le premier à dire, oui, il y a des erreurs. Mais ne faisons pas de cas isolés une généralité dans la police nationale.
Quoi ? Il y aurait un racisme latent au sein de la police nationale, Yves Lefebvre ?
Non, absolument pas. Il peut avoir, comme à l'image de la société, des policiers, comme des gendarmes, comme toute autre personne, qui peut, à un moment donné, commettre une dérive, une erreur. Oui, c'est vrai, et à ce moment-là, je suis le premier à le dire, je l'ai dit, il y a de ça quelques semaines, pour des propos tenus sur l'île Saint-Denis, oui, à ce moment-là, il faut enquête, et si l'enquête démontre qu'il y a eu de tels propos, que de tels propos ont été tenus, il faut des sanctions. Mais dire aujourd'hui que les policiers massacrent des milliers de personnes, sous prétexte, sous couvert de leur couleur de peau, de leurs cheveux, de leur origine, mais c'est profondément faux. Oui, les policiers aujourd'hui ont de plus en plus de soucis à travailler dans les banlieues, mais quand on dit ça, quand une telle personne peut dire ça, aujourd'hui c'est balayé d'un revers de main les tirs de mortier, c'est balayé d'un revers de main les risques encourus pour la population par rapport à des jeunes sur des rodéos motos dans les rues, dans les quartiers, sur les trottoirs. C'est aujourd'hui insulter nos dizaines de collègues qui décèdent par le suicide tous les ans. C'est insulter une police républicaine, c'est remettre en cause les valeurs de notre République, tout simplement. Parce que comment demain, de tels gens ne font que, je dirais, attiser une haine et font aujourd'hui, pour les jeunes qui veulent rentrer dans la police, remettre en cause, je dirais, toute leur vocation par rapport à ça. Le flic est là pour défendre la veuve et l'orphelin. Et le flic est là pour arrêter ceux qui veulent tenter de porter atteinte à ces mêmes, à cette même population que nous protégeons avec un grand P. C'est inacceptable.
Bien, merci. Eh bien, j'organise ça. Yves Lefebvre, merci beaucoup, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, qui dépose plainte donc contre Camélia Jordana. Il est quelle heure? Il est 7h43. Vous êtes sur RMC, c'est là que ça se passe. Dans un instant, nous parlons de l'hôpital avec Frédéric Valtoux, qui est le président de la Fédération hospitalière de France. À tout de suite.
RMC, Bourdin Direct.
Vos messages nombreux au sujet des propos de Camélia Jordana. Patrick nous dit, elle doit être lourdement sanctionnée. Philippe nous dit, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Si vous respectez la loi, vous n'avez pas de souci avec la police. Pareil pour Serge, il n'y a pas de violence. Si on est correct avec nos forces de l'ordre, rien à craindre. Au contraire, Anis Bou nous dit, moi j'ai peur de la police. Je vis à Marseille, quartier Noailles. Je vois certains comportements, une hantise du policier qui existe. Bien sûr, il y a des trafics, mais les violences sont systématiques et ce ne limite pas qu'au trafic. À chaque contrôle, le cœur qui bat, la peur qui monte, et pourtant je n'ai jamais eu rien à me reprocher. Michael dit aussi qu'il n'y a pas que dans les quartiers populaires que ce sentiment-là existe. Les violences policières sont de plus en plus fréquentes et non punies. Ça fait bien longtemps qu'on n'a plus confiance dans les forces de l'ordre. Ouria nous dit que certains fonctionnaires de police ont déchiré le pacte républicain. Là, c'est spécial. Ils s'installent dans la violence gratuite. Camélia Jordana, je la soutiens, nous dit Ouria. Et vous, continuez de réagir. 3216 rmc.fr ce matin.
RMC, 6h-9h.
Bourdin Direct. Bien, Ségur de la Santé qui va commencer aujourd'hui. Grande concertation avant un plan présenté au mois de juillet, début juillet. Ce matin, dans Libération des soignants, publie un manifeste. Ils écrivent à Emmanuel Macron, Quentin Vinet. Que veulent-ils?
Ils réclament tout simplement des moyens pour la santé. Ils demandent une revalorisation des carrières pour les soignants, un accès aux soins égal pour tous, quel que soit son territoire, une réforme de l'assurance maladie, davantage de lits aux urgences, une refonte des études de médecine et un stock de masques, un stock stratégique comme il l'appelle, pour au moins 6 mois.
Frédéric Valtoux, bonjour.
Bonjour.
Président de la Fédération hospitalière de France, vous participez évidemment à cette grande concertation, Frédéric Valtoux. Première chose, la priorité, les traitements, les salaires de tout le personnel soignant. Il faut augmenter ces salaires, Frédéric Valtoux. Vous le demandez aussi.
Oui, il faut considérer enfin ceux qui ont fait face à la crise, ceux qui ont montré à quel point ils pouvaient être engagés et sous les yeux de tous les Français. Il faut considérer et les rémunérer à leur juste place. C'est ça qui est important. Alors, il y a les soignants, mais il y a tous les métiers de l'hôpital, tous les petits métiers dont on parle moins, mais qui participent à faire tourner l'hôpital. Donc, il y a effectivement un grand enjeu, parce que c'est dans tous les métiers de l'hôpital que les salaires sont très bas, et qu'aujourd'hui, il faut poser la question de la juste rémunération. C'est majeur, c'est important. Sans ce signal-là, on ne fera pas autre chose.
Oui, il faut absolument, si j'ai bien compris, réduire les écarts de rémunération entre le public et le privé, Frédéric Valtoux.
Alors, les écarts de rémunération entre public et privé, c'est un autre sujet, parce qu'effectivement, au fil du temps, s'est installé un système de santé où, par exemple, pour un médecin, prenez un exemple d'un médecin radiologue, il peut gagner 3 fois plus en traversant la rue et en allant s'installer dans la clinique en face. Il n'aura pas les gardes à faire. Il aura la gestion de son temps et de son planning. Il aura moins de contraintes et il aura un salaire parfois 3 fois supérieur. Donc c'est vrai que ces écarts-là qui ont grandi avec le temps, qui se sont accentués avec le temps, il faut absolument poser la question, parce que c'est un élément, je veux dire, de concurrence auquel l'hôpital ne peut pas faire face. Et on voit nos forces, surtout médicales, ça concerne beaucoup les médecins, qui parfois s'en vont. Et ça, c'est un sujet que personne n'évoque, mais qu'il faut mettre sur la table de manière très précise.
Bien, vous êtes associé évidemment à cette réflexion. 1 millier d'hôpitaux publics, la Fédération hospitalière de France, 3 800 établissements médico-sociaux. Vous allez être associé aux côtés de représentants des hôpitaux, des EHPAD, de la médecine de ville et évidemment de tous les personnels, soignants ou pas. Frédéric Valtoux, à l'hôpital, parce qu'il y a des choses que le grand public ne comprend pas. C'est vrai que on nous dit, et c'est la réalité, les personnels soignants ou non soignants sont mal payés. Mais en même temps, il y a de l'argent qui va vers l'hôpital. Alors où passe cet argent? Est-ce qu'il doit être mieux utilisé? Est-ce qu'il peut être mieux utilisé?
Alors, deux mots sans alourdir avec trop de chiffres. La France consacre 200 milliards à ses dépenses de santé. L'hôpital, oui. C'est 80 milliards d'euros. Donc, vous voyez, oui. C'est une partie majeure, mais ça n'est pas la totalité, évidemment, des dépenses de santé. Il y a la médecine de ville, il y a la médecine générale. Les problèmes de l'hôpital, ce n'est pas que ce qui se passe dans les quatre murs de l'hôpital. C'est aussi ce qui se passe autour. Comment on peut régler le problème des urgences si on ne règle pas la question de l'accès aux généralistes pour les Français? Comment on règle la question des financements de l'hôpital, comme vous le dites? Effectivement, si on ne s'intéresse pas à ces 30% de dépenses de santé qui, dans le système, sont des dépenses inutiles, des actes redondants, des actes non pertinents. Donc là, il y a des marges de manœuvre financières où effectivement, on peut rationaliser la dépense, mieux dépenser, pour pouvoir mieux payer le salaire
de soignants. Oui, mais attention, tout le monde a peur. Tout le monde a peur, le personnel dit, bon, très bien, mieux dépenser, rationaliser, mais ça veut dire moins de personnel, rationaliser. C'est un mot, rationaliser, qui fait peur, hein.
Non, ça ne veut pas dire moins de personnel, ça veut dire que aujourd'hui, quand dans un département à l'autre, d'un département à l'autre mitoyen, vous avez des écarts de pratique, ou par exemple sur une opération de la cataracte, parce que vous habitez tel département, vous êtes deux fois moins opéré de la cataracte que le département d'à côté. Ça veut dire que dans le département d'à côté, il y a sans doute des gestes médicaux qui ne servent à rien, il n'y a aucune raison que vos voisins à 50-100 km soient deux fois plus opérés de la cataracte. Donc, dans les pratiques médicales, il y a des écarts, il y a de telles différences qui, derrière, génèrent des dépenses qui sont importantes et qu'il faut absolument arriver à équilibrer. Et là, on gagnera déjà, je ne parle même pas des moyens pour faire tourner l'hôpital, je parle des pratiques médicales de l'ensemble des professionnels de santé, et j'y inclus bien sûr le privé. Là, effectivement, on a des écarts qui permettront des économies importantes qu'on réinvestira pour les 250 ou 300 euros nécessaires pour mieux payer, 300 euros par mois pour mieux payer l'infirmière ou l'aide-soignante, mais aussi qu'on pourra mieux payer la consultation généraliste qui aujourd'hui est trop basse à 25 euros. Vous voyez, donc, il y a dans notre système de santé, il y a beaucoup de déperdition d'argent. Et c'est cette déperdition-là qu'il faut s'attaquer pour effectivement concentrer la dépense là où elle est utile. Le salaire, les petits salaires, et l'investissement hospitalier, etc., etc.
Bien, merci beaucoup Frédéric Valteau. On aura l'occasion de vous retrouver évidemment tout au long de ce plan, de cette discussion. Il faut aussi, dites-vous, sortir du carcan national pour introduire des dérogations aux 35 heures dans le respect du dialogue social. Il est 7h52, c'est l'heure des explications.
RMC, expliquez-nous.
Avec Nicolas Poincaré. Nicolas, il y a des hommes et des femmes qui se sont enrichis pendant le confinement, mais pas qu'un peu. Très enrichi, Nicolas.
Pas qu'un peu, comme
pas
vous
qu'un
dites.
Peu.
Il y a des fortunes qui se sont construites et puis d'autres qui ont simplement encore plus gonflé. Si on prend par exemple les 600 premières fortunes américaines, elles ont augmenté de 434 milliards de dollars en deux mois seulement, entre la mi-mars et la mi-mai. Les calculs ont été faits par l'Association des contribuables américains avec les chiffres du magazine Forbes. Ça veut dire que ces 600 ultra-riches américains ont gagné en moyenne chacun 720 millions en deux mois, soit exactement 12 millions par jour. Mais ce n'est qu'une moyenne, parce que si on rentre dans le détail, eh bien plus ces fortunes sont importantes, plus elles ont grossi. Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, est de plus en plus le plus riche du monde, puisque le fondateur d'Amazon a gagné 34 milliards de dollars en deux mois. Mark Zuckerberg, 25 milliards. Bill Gates, 8 milliards. Elon Musk, le fondateur de Tesla et des fusées SpaceX, a vu sa fortune augmenter de 48% en seulement deux mois, soit 36 milliards de plus aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui explique de telles envolées?
Alors, une seule raison, ce sont les cours de la bourse. La bourse avait d'abord dégringolé jusqu'à la mi-avril, jusqu'à la mi-mars, et depuis, elle ne cesse de monter. Donc quand on parle de ces gains des très riches américains, on oublie de dire que beaucoup avaient perdu presque autant pendant le mois qui avait précédé, mais pas tous, parce que puisqu'on parlait de Jeff Bezos, lui, il a donc gagné 250 000 euros par minute depuis la mi-mars, alors qu'il n'avait, lui, pas perdu au cours du mois de février. Donc c'est vraiment une envolée de sa fortune. Ce qui frappe, c'est l'amplitude de ces mouvements et puis le fait que la bourse américaine puisse ainsi monter pendant deux mois, alors que dans le même temps, 38 millions d'Américains se sont inscrits au chômage depuis le début de la crise.
La bourse déconnectée de l'économie réelle, je ne sais pas, c'est une grande question. Hein. Quels sont les secteurs qui profitent le mieux de la crise?
Alors, beaucoup de secteurs, mais notamment ce qu'on appelle le stay at home, le rester à la maison. Par exemple, Netflix, l'action a gagné 46%, Facebook plus 60% en ramassant tout ce qui reste de la publicité. Un bon exemple de ces nouvelles fortunes, c'est le fondateur de Zoom qui vient de gagner personnellement 4 milliards en 3 mois. Zoom, c'est cette application qui permet de faire du télétravail, des visioconférences ou bien des apéros virtuels. Son activité a progressé de 1900% en quelques semaines. Ouf. Et son fondateur, qui est un Chinois, parti de rien, un fils de mineur, qui s'était vu refuser 7 fois son visa d'entrée aux États-Unis. Finalement, il a eu ce visa. Oui. Il est rentré aux États-Unis, il s'est installé en Californie et il a donc développé Zoom quasiment tout seul et en ne parlant pratiquement pas l'anglais. Ah oui. Il y a 2 ans, il n'avait aucune fortune. Aujourd'hui, il a 8 milliards de dollars. Une fulgurante ascension. Il est dans les 200 Américains les plus riches.
Incroyable. On trouve aussi des Français parmi ceux qui sont en train de faire fortune.
Alors, au moins 2 Français qui ont fait beaucoup, beaucoup d'argent ces dernières semaines. D'abord, un trader, Pierre Endurant. Il a 43 ans. Il vient d'Aix-en-Provence. C'est un ancien champion de natation junior. Aujourd'hui, il est passionné de kickboxing. Vous savez, c'est ce sport où tous les coups sont permis, ce qui convient assez bien aux traders. Il a travaillé chez Goldman Sachs. À 27 ans seulement, il touchait déjà un bonus annuel de 20 millions d'euros. Ensuite, il a fondé un fonds d'investissement spéculatif, c'est-à-dire qu'il place l'argent des autres sur les marchés risqués. Ses bureaux sont à Londres, mais lui vit à Malte et il vient de réussir
à Malte.
Et il vient de réussir
des raisons fiscales,
un très très beau coup,
oui,
en pariant sur la baisse des cours du pétrole. En fait, il est le seul qui avait prédit qu'il était possible que le cours du pétrole passe en dessous de zéro avec un prix donc négatif, ce qui est arrivé brièvement le 21 avril et ce qui lui a rapporté beaucoup beaucoup d'argent.
Et l'autre Français qui est en train de construire une fortune, c'est Stéphane Bancel, le PDG du labo américain Moderna.
Voilà, c'est un ingénieur français de 47 ans, issu du lycée Ginette à Versailles, de l'école centrale à Paris, de l'université Harvard aux États-Unis. Il a travaillé au Japon, puis en France pour Biomérieux. Et puis, en 2011, il a donc participé à la fondation de Moderna. C'était un pari audacieux, une petite start-up qui veut développer une nouvelle famille de médicaments basés sur des modifications génétiques pour que le corps fabrique ses propres défenses, soit contre le cancer, soit contre le virus. Est arrivé le Covid-19. Moderna est un des labos les plus avancés sur la recherche d'un futur vaccin. L'action s'est donc envolée et Stéphane Bancel se retrouve à la tête d'une fortune évaluée à 2,5 milliards de dollars. On appellera ça sans doute les fortunes Corona.
Les fortunes Corona, et il est installé dans le Massachusetts. Merci beaucoup, merci. Il est 7h57 tout à l'heure. Un homme de l'économie, l'homme de l'économie en France, puisque c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui lui ne fait pas fortune. Enfin,
ah non ?
Non, il ne fait pas fortune, la France non plus pour l'instant. Il est 7h57, la France qui s'endette.
À suivre, oui. Nous suivons et nous soutenons son combat depuis le début. Première victoire du restaurateur Stéphane Manigold. La justice ordonne à son assureur AXA d'indemniser sa perte d'exploitation. Stéphane Manigold avec nous juste après le journal de 8h sur RMC.
RMC.